Chapitre 21. À l'instant où je m'attaquais à cet impossible deuxième ressaut, je sus que, dussé-je vivre 3 minutes, y compris le temps où je serais conscient dans ma chute de 2 kilomètres, ou 70 ans, cette tentative d'ascension resterait ma plus grande fierté. Je respirais mal à cause de la constriction de ma gorge, mais ne m'en souciais plus. J'avais pris une profonde mais insuffisante goulée de cet air glacial au-dessus de 8570 mètres, et je terminerai cette ascension grâce à ce seul flux d'oxygène. Ou pas. Le bon sens et l'expérience m'incitaient à essayer de rester à l'extrême gauche de cette paroi de presque 8 mètres en utilisant comme je pouvais cette fissure off-width. Mais j'en décidais autrement. Je sentais dans mes tripes que je signerais mon arrêt de mort en faisant ça. Je choisis plutôt une étroite branche de l'arborescence de petites failles à droite. Les plus grandes fissures verticales à droite étaient presque remplies de petits cailloux. Là encore, trop risqué d'y mettre la main ou la botte. Des verrous de mains et de doigts sur des prises inexistantes, et la vitesse, le plus de vitesse dont j'étais capable, me hissèrent aux 2/3 de la face plate. J'aurais sûrement rigolé si j'avais regardé en bas. La courbure de la terre était visible depuis que nous avions atteint le premier ressaut. Là, sur le deuxième, les cimes de montagnes distantes de plus de 300 kilomètres pointaient au-dessus de cette courbure brumeuse et le sommet de tous les pics himalayens de 8000 mètres était maintenant en dessous de moi. Si bien que je me gardais d'admirer le paysage et continuais de grimper tel un lézard sur une roche chaude. Sauf que celle-ci ne l'était pas. Il faisait un froid d'un autre monde. Cette fichue face, orientée au nord, ne voyait quasiment jamais le soleil. Mes mains et chaque partie de mon corps entrant en contact avec elle, et je voulais que tout mon corps l'épouse, absorbaient ce froid engourdissant plus vite que je ne pouvais grimper. Je mettais mes mains gelées là où je savais d'instinct qu'il y aurait des prises invisibles. Les extrémités d'acier de mes crampons lançaient des étincelles au contact du granit et du calcaire. J'approchais du sommet, un foutu surplomb évidemment, qu'il aurait été impossible d'escalader même au pays de Galles par une journée d'été, à moins d'avoir plein de nœuds de Prussie, qu'une solide corde à laquelle se suspendre et un des jumards de JC à faire glisser dessus. Je continuais donc à progresser, une pointe de crampon trouvant une prise, tout en glissant vers la gauche et cette fissure off-width jusqu'ici inutile. Bon. La fissure était encore trop large pour que j'y cale la main ou l'avant-bras, et trop étroite pour mon corps entier. Mais je pouvais toujours y enfoncer mon coude, verrouiller le bras, et une fraction de seconde plus tard, coincer mon pied gauche et la jambe dedans. C'était ça, mon plan, comme je m'en rendis compte. Et quel plan! Il n'y avait aucune prise de main ou de pied solide près de la fissure, bien sûr. Dieu n'allait tout de même pas me faciliter la tâche. Mais dans ce genre d'escalade, l'adhérence et la vitesse sont Dieu. Si bien que je les priais toutes les deux et les utilisais pour gagner encore plusieurs dizaines de centimètres. Les poumons en feu, la vision tunnelisée, ignorant la douleur dans mes jambes égratignées par la roche, je m'aidais de mes genoux pour progresser 1 mètre supplémentaire et rencontrais un autre surplomb. Une fois encore, je dus me retenir de rire pour ne pas risquer de gâcher le peu d'oxygène qui me restait dans mes poumons. Le surplomb se terminait à environ 1,80 m à ma droite. Je tendis donc ma jambe droite aussi loin que possible, faisant crisser mes crampons, jusqu'à ce que ma botte trouve une vire à peu près aussi grande qu'un crayon cassé. J'y déportais tout mon poids, cherchais en vain une prise pour ma main droite tâtonnante, et m'en remis une fois encore à l'adhérence contre une partie de la dalle un peu moins inclinée qu'à la verticale. Un autre replat, moins 1 mètre plus haut, pour ma botte gauche, quelques secondes supplémentaires à vaciller au-dessus du vide, et la partie supérieure de mon corps fut sur le bord du surplomb, ma main droite trouvant toutes les prises nécessaires. J'étais en haut du deuxième ressaut. Je m'y hissais complètement et roulais pour m'écarter de quelques centimètres du bord, afin que le précipice de 2400 mètres ne soit plus directement sous ma tête, mes épaules, mes pieds ou mon derrière. Je ne pouvais toujours pas respirer, mais je pouvais me lever, et c'est ce que je fis. À quelques mètres de la falaise du deuxième ressaut, Il y avait un joli banc de calcaire d'1,20 m sur 90 cm, avec plein d'arêtes et d'ondulations de roches, et même quelques minces bornes de pierre auxquelles accrocher des cordes d'assurage. Merci. Souffrant le martyr à chaque inspiration et expiration, je prévins pourtant les autres d'une voix calme et assurée, d'après ce que m'a dit plus tard Passang, qu'ils pouvaient commencer à monter. J'avais apporté 36 mètres de corde miracle. Après l'avoir arrimé au banc et aux bornes de pierre, j'en utilisais 30 mètres. Le diacre prit son temps, tâchant de parcourir la plus grande partie de la voie en escalade libre lui aussi, mais en évitant 2 ou 3 fois la chute grâce à la corde tendue. Je m'en fichais et jamais ne le mentionnais ensuite. Ce n'était pas une compétition. Les autres, sauf Jean-Claude, utilisèrent à plein la tension de la corde, assurée par 2, 3, puis 4 d'entre nous pour réussir cette escalade impossible. Personne ne résista à l'envie de regarder le panorama depuis le 2e ressaut. Il y en avait 1/3e un peu plus haut sur l'arête nord-est et juste avant la pyramide sommitale enneigée de l'Everest, mais ce dernier ressaut ressemblait à un marshmallow comparé à celui que nous venions de gravir. D'autant qu'on pouvait apparemment le contourner par une traversée du champ de neige à ses pieds, si nous ne voulions pas escalader les blocs rocheux. Derrière ce 3e ressaut, paraissant à 1 jet de pierre de nous, une pente de neige d'abord graduelle puis très raide menait au sommet. Ce serait une ascension difficile, mais loin d'être aussi technique que le passage du 2e ressaut. Enfin se dressait le sommet enneigé et ses dangereuses corniches, toutes parfaitement visibles au soleil et dans l'air cristallin. Un vestige du nuage lenticulaire flottait vers l'ouest, mais il n'annonçait pas de changement de temps. Le vent soufflait très fort, toujours du nord-ouest, mais nous nous penchâmes en avant pour lui résister et criâmes notre joie. Du moins, les autres le firent. Je finis par m'apercevoir que je ne respirais plus du tout. Tandis que mes amis faisaient quelques pas vers l'ouest, je tombais à genoux juste derrière le banc de pierre. J'étais incapable de respirer, incapable même de tousser. L'air ne circulait plus dans mes poumons douloureux et meurtris. La pince de langouste au fond de ma gorge, qui me faisait maintenant l'effet d'une masse coupante de métal froid, bloquait tout. J'étais en train de mourir. Je savais que je mourrais. Mes 4 amis criaient, se tapaient dans le dos et regardaient le sommet de l'Everest dans le soleil de midi pendant que j'agonisais. Déjà, ma vision se modifiait et les points noirs dansants cédaient la place à un tunnel obscur. Le docteur Passang se retourna et en 3 enjambées fut à mes côtés. Il posa un genou à terre et je fus vaguement conscient que les 3 autres m'entouraient aussi. Jean-Claude et le diacre me contemplaient, déroutés, et Reggie s'était agenouillé près de moi sans savoir que faire. « C'est vrai, » pensai-je et appris en 7 secondes. « Même quand on est entouré, on meurt complètement seul. » J'entendis Passang dire « Aidez-moi à le redresser », tandis que les canaux du son et de la vue se refermaient déjà. De très loin, je sentis des mains me relever brutalement et me faire tenir à genoux. Peu importait. Cela faisait maintenant presque 2 minutes que je n'avais plus inspiré ou expiré. Ce qui m'obstruait la gorge la tranchait de l'intérieur. Je me noyais. J'étais déjà noyé. Mais sans même le cadeau empoisonné de l'eau pour remplir mes poumons à la place de l'air. J'émis quelques ultimes bruits d'étranglement et je tentais de basculer vers l'avant, mais des mains me tenaient toujours par les épaules, m'obligeant à mourir à genoux. Je regrettais seulement vaguement de mourir. J'aurais aimé aider encore un peu mes 4 amis. Mais je les ai conduits en haut du 2e ressaut. Ce fut ma dernière pensée consciente. La paume de Passang, je crois que c'était la large main du médecin, appuya si fort sur ma poitrine que je fus sûr qu'il me cassait les côtes et le sternum. À la même seconde, il me frappa si violemment dans le dos que ma colonne vertébrale faillit se briser. En une puissante poussée sanglante, comme si j'accouchais par la gorge et la bouche d'une terrible créature aux membres pointus, l'obstruction monta et sortit. Enfin, Reggie me laissa tomber en avant sur la chose que j'avais expectorée. On aurait dit un morceau de colonne vertébrale plein de sang, une espèce de super tribolite cramoisie qui avait dû s'insinuer dans ma gorge pendant mon sommeil au camp 5 quelques nuits plus tôt. Mais je me fichais de la nature de ce monstre. Je pleurais presque dans ma joie de pouvoir respirer de nouveau. Respirer douloureusement, certes, mais respirer. De l'air entrait et sortait. Le tunnel de vision s'élargit et disparut. Je clignais des paupières dans l'éclatante lumière, jusqu'à ce que Reggie me remette délicatement mes lunettes. J'avais escaladé le deuxième ressaut sans lunettes pour pouvoir voir mes pieds, mais je ne souhaitais pas souffrir autant que le colonel Norton de ces cités des neiges. « Je vais vivre », pensais-je tout étourdi. Je me raclais la gorge, crachais beaucoup, et répandis encore un peu de sang sur la chose épineuse que j'avais vomi sur la pierre.
« Qu'est-ce que c'est ?»
demanda J.C. au docteur Passang.
« C'était la muqueuse entourant son larynx. « Mais c'est aussi solide et piquant qu'un crabe !» fit remarquer le diacre.
« Elle a gelé au fil des jours !»
expliqua Passang.
« Et grossi petit à petit dans sa gorge et son œsophage, jusqu'à bloquer ses voies respiratoires.
« Il peut vivre sans ?»
demanda le diacre. Il paraissait seulement curieux, trouvais-je. Je décidai de l'interroger là-dessus plus tard.
« Bien sûr !» répondit Passang. Sa respiration restera douloureuse pendant quelques jours, et nous devrons le ramener à une altitude où l'air est plus riche, mais il s'en sortira.
J'étais agacé de les entendre parler de moi comme si je n'étais pas là, comme si j'étais bel et bien mort. Avec un peu d'aide, je réussis à me remettre sur pied. Dieu Tout-Puissant, le visage de mes amis, la grandiose pyramide sommitale, le bleu si intense du ciel, et la stupéfiante courbure de la terre, tout était magnifique. J'en pleurais presque de joie.
« Pas un geste !»
s'écria Bruno Siegel à 2 mètres derrière nous. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule, le temps de voir son pistolet noir braqué sur nous. Le Luger dans la main droite et la carabine Lee Enfield à l'épaule, il se tenait sur le banc de pierre, bien campé sur ses jambes écartées, trop loin de nous pour qu'on puisse tenter de se ruer sur lui. Triomphant.
Au moindre mouvement, reprit Siegel, je vous tue tous. Je n'ai plus besoin de vous. Et merci encore, Herr Perry, pour les cordes fixes sur cet intéressant deuxième ressaut.